quand arrivera le prochain séisme ? En réalité, les grands séismes ne suivent aucun rythme précis. C'est la conclusion d'une équipe internationale de chercheurs. Aux commandes, le docteur Zakaria Gazoui, un chercheur en géologie de la British Antarctic Survey à Cambridge, rattaché à l'ULB. Pendant 12 ans, son équipe a analysé les lacs à l'ouest du Népal. Leur approche, analyser les sédiments accumulés au fond des lacs, une technique appelée carottage sédimentaire, qui permet de remonter le temps. Les scientifiques ont pu reconstituer 6000 ans d'activité sismique. Résultat, les découvertes bousculent les croyances du cycle sismique. Les séismes majeurs sont imprévisibles. Pour les 50 millions d'habitants de l'arc himalayen, pour toutes les régions sismiques, quels risques ça pose ? Pour mieux comprendre les implications de cette recherche, plongeons dans 12 années de recherche aux côtés de Zakaria Gazoui. Vous écoutez actuellement Histoire de savoir, une émission consacrée à l'actualité et à la vulgarisation de sciences exactes. Cette édition vous est présentée par Odile Fripia et Lucas Germain, étudiants en master de journalisme.
Tout commence bien avant les sommets de l'Himalaya. Zakaria Gazoui est depuis toujours habité par une passion pour la montagne. Cet élément naturel, grandiose, deviendra le fil conducteur de toute sa vie. En 2013, il se lance dans une thèse de doctorat entre Grenoble et Gand. À cette époque, son regard est tourné vers les paysages de la Patagonie chilienne et argentine. Mais la vie, avec ses détours inattendus, réserve parfois des trajectoires plus escarpées. Ses recherches finissent par le mener vers les monts himalayens, plus précisément à l'extrême ouest du Népal. Il n'est plus question d'une simple étude de terrain, mais d'une expédition sur un plus long terme. Dans quelques lacs, il réalise ce qu'on appelle le carottage, une technique de prélèvement de sédiments.
En 2014, on a prélevé des carottes sur le lac Rara, Foxundo et Dumba. On voulait monter au lac Tilicho, mais il y avait des avalanches de neige, donc on n'a pas pu. Et finalement, on a terminé ce transect d'ouest en est l'année passée, en prenant des carottes au lac Tilicho et au lac Fewa, qui est à côté de Pokhara. Donc ça, maintenant, ça nous permet d'avoir une distribution spatiale d'ouest en est, pour aussi comprendre comment les tremblements de terre se distribuent dans l'espace et dans le temps. Alors, le lac Rara, on est tombé dessus, c'était une chance. Et puis après, la difficulté, c'était de pouvoir... Alors, on parlait des datations, mais on a été un peu contraints au niveau technique pour pouvoir dater le lac Foxundo et Dumba. Les techniques ont évolué, et maintenant, on commence à avoir seulement les résultats sur les lacs Foxundo et Dumba. Donc, le travail continue.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de bien saisir ce dont on parle. Odile, c'est quoi concrètement un séisme ?
Alors, il faut imaginer que la planète, c'est un peu comme un puzzle géant. Et les pièces, ce sont les plaques tectoniques. Elles ne sont jamais immobiles. Elles s'assemblent, glissent, se rendent dedans pendant des décennies, voire des siècles. Et donc le séisme, c'est le moment brutal où les plaques finissent par céder. Toute l'énergie qu'elles ont accumulée est relâchée en quelques secondes. C'est cette libération d'énergie, plus ou moins violente selon la profondeur et la dureté des roches, qui fait trembler le sol et tout ce qui se trouve dessus. Et c'est précisément ce que Zakaria a cherché à lire dans les lacs népalais, dater les ruptures passées pour mieux comprendre comment elles se produisent. Par contre, Lucas, comment arrive-t-on à dater un séisme depuis un lac himalayen ?
En fait, quand il neige ou il pleut, l'eau retombe dans les rivières, donc ces dernières transportent un grand nombre de sédiments. Des sédiments, c'est de la matière organique, des fragments de feuilles, des fragments de bois, des coquilles. Et ils vont se déposer de quelques millimètres par an au fond de la rivière ou du lac, constituant comme ça de véritables archives naturelles. Chaque couche de sédiments, qu'on appelle strate, correspond à une période. Les paléosismologues, les chercheurs qui reconstituent les séismes passés, utilisent alors la méthode de datation au carbone 14. On peut prendre ces fragments de feuilles dans un échantillon, une sorte de tube qu'on appelle une carotte, et on peut ainsi les dater. Avec les résultats, on obtient une gamme d'âge, avec un âge minimum et un âge maximum, qu'on résume par un âge moyen. C'est une date assez précise.
Mais du coup, comment on sait dire concrètement à ce tremblement de terre-là, il date du 6 juin 1505 ?
Pour ça, on se base plus uniquement sur la géologie, mais aussi sur l'histoire et les chroniques. Dans le cas de l'étude dont on parle aujourd'hui, les chroniques sont présentes dans des temples au Tibet et au Népal, car les bouddhistes ont des archives importantes sur des événements extrêmes, comme les séismes. Mais ces événements sont mis dans un contexte religieux, donc des linguistes et des anthropologues essaient de les désacraliser, c'est-à-dire en retirer le contexte religieux. En effet, une particularité de l'étude, c'est son interdisciplinarité. L'équipe de Zakaria était assez large.
Quand on se base sur des études qui sont assez fragmentées, c'est-à-dire qu'on a des informations, mais il nous manque beaucoup d'autres informations, on essaye d'élargir au maximum nos sources d'informations. Et donc, c'est un choix, c'est un désir de pouvoir travailler avec des sociologues, des anthropologues, des historiens. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et ça nous permet de diminuer l'incertitude et d'avoir un maximum d'informations.
Zakaria Ghazoui, lui, il a lu des livres sur le tremblement de terre de 1505, provenant de différentes sources littéraires, et on y disait que c'était le 6 juin à 6 heures du matin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on confronte deux types de datation, un vrai travail de détective, comme disait Zakaria Ghazoui. D'un côté, les carottes avec le carbone 14, d'un autre, les chroniques littéraires, basées sur un calendrier lunaire qui est extrêmement précis et détaillé. En reliant la carotte au tremblement décrit, ils ont pu découvrir un certain nombre d'autres séismes, notamment via des coupures de presse, par exemple, parfois venant d'assez loin du lac, ce qui a permis de lier avec la distance d'où venait le tremblement de terre par rapport au lac et de se figurer quelle en était l'intensité.
Oui, parce qu'il faut préciser que l'intensité d'un tremblement de terre n'est pas synonyme de sa magnitude. La magnitude, c'est la force du séisme, alors que l'intensité, c'est les dégâts provoqués. Pour ces séismes datés, on ne peut pas avoir la magnitude parce qu'on ne sait pas calculer le déplacement. Mais on peut avoir l'intensité. Pour ça, on utilise l'échelle modifiée de Mercalli. Elle permet de définir les dégâts en suivant la description de destruction. Par exemple, si une maison s'effondre, la cheminée qui tombe représente une intensité de 5. Si la maison n'existe plus, on est à une intensité de 7. Et c'est grâce à ce système qu'on classe les séismes majeurs, mineurs, moyens.
Les lacs sont assez profonds, on parle de plus de 100 mètres. On a des tout petits bateaux, donc il faut beaucoup d'autres considérations, c'est-à-dire comment on achemine tout cet équipement sur place. On est dans des zones assez éloignées, où il n'y a pas toujours de route, en tout cas à l'époque il n'y avait pas beaucoup de route. Donc ça demande une réflexion logistique qui est assez importante. On était parti sur l'idée de prendre des mules, ce qu'on a fait, pour pouvoir porter une partie de l'équipement, mais quand on a plus de 100 kg de matériel, en considérant qu'une mule porte environ 20 kg, ça vous figure plus ou moins le chiffre et le nombre de mules qu'on a dû avoir. On ne peut pas mettre de moteur sur ces lacs. Les lacs font plus de 5 km pour certains. On a fait ça à la rame. Mais on ne peut pas avoir un trop gros bateau parce que sinon c'est trop lourd. On a 200 mètres de corde. Le carottier pèse environ 10 kg. On rajoute 10 kg de poids pour pouvoir pénétrer le sédiment. Une fois qu'on tire le carottier, quand la carotte est pleine, elle fait entre 10 et 20 kg. Donc au total, ça fait 30 kg à monter, on est environ à 3000 mètres d'altitude. Et au-delà de ça, une fois qu'on a pris les carottes, il faut pouvoir les ramener. Alors la carotte, elle est dite de manière très simplifiée. Et ce qui est la réalité, c'est que c'est de la boue. Ce qu'on essaye de faire, c'est de la conserver dans un état humide. Et donc quand elle est renvoyée en Europe, on doit conserver cet état humide, absolument. Parce que si par exemple on a de l'argile qui est présent dans la carotte, si on retire l'eau qui est présente dans l'argile, on se retrouve avec un sédiment qui est modifié. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène ces carottes à l'état humide, qui conserve l'eau, et ensuite, on les coupe en deux dans les laboratoires, on les ouvre comme une pomme, et après, on regarde. Donc, il y a encore toute une incertitude, quand on ramène la carotte, de se dire, est-ce qu'on en a assez? Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Possiblement rien. Est-ce qu'on a respecté le transport de façon à ne pas avoir trop secoué la carotte pour éviter justement que certains éléments qui étaient en bas se retrouvent en haut? Donc ça amène beaucoup de stress. Et ça prend aussi beaucoup de temps. Parce que pour pouvoir renvoyer ces carottes en Europe, donc la mission durait environ 2 mois. Et ensuite, on a dû attendre des fois presque un an pour pouvoir avoir les carottes de retour.
Avant d'en venir aux découvertes faites par l'équipe de Zakaria Ghazoui, il est important de se rappeler de ce qu'on pensait et de ce qu'on savait sur les tremblements de terre dans la région, notamment via le gap sismique.
Le gap sismique, c'était depuis 1505, on n'a plus de tremblements de terre, plus de preuves qu'il y ait eu d'autres tremblements de terre. Alors, le tremblement de terre de 1505 avait une magnitude supérieure à 8,5. Et donc depuis, il n'y avait plus de tremblements de terre établis. Et donc, ça laissait à penser que l'énergie s'était accumulée depuis 1505. Et donc, que le prochain tremblement de terre qui allait arriver allait libérer toute cette énergie stockée depuis 1505. Ce qui représentait, et ce qui représente toujours, une grosse question et un danger très important. Alors, en paléosismologie, il y a deux écoles. Donc, il y a l'école traditionnelle, c'est les tranchées. Donc, on se met au niveau d'une faille et on coupe le long de la faille. Et on a en version plane la faille et on voit les deux, entre guillemets, les deux blocs qui sont à l'intersection de la faille. Et donc, quand on a un tremblement de terre, il faut se figurer que le long de la faille, il y a un déplacement. Et sur base de ce déplacement, au niveau des failles, on peut mesurer la distance entre un point A et un point B de la faille. Et donc, sur base de ça, avec des équations, on peut déterminer la magnitude. Ce qui se passe, c'est que ça ne fonctionne que s'il y a eu une rupture, c'est-à-dire que s'il y a eu un déplacement au niveau de la faille. Et dans le cas, comme pour certains tremblements de terre, il n'y a pas toujours de rupture en surface, donc on ne voit pas toujours l'expression du tremblement de terre à la surface. Mais pourtant, il y a quand même eu un tremblement de terre. Il était un peu plus profond, peut-être pas assez intense que pour pouvoir réellement déplacer deux blocs. Et c'est là que ça devient intéressant avec les lacs. C'était une technique qui avait été utilisée en Patagonie. Et d'où le lien entre la Patagonie et l'Himalaya. C'est que j'avais commencé à travailler en Himalaya sur les carottes, en Patagonie sur les carottes sédimentaires. Et on s'est dit, on va le tester en Himalaya. Et donc, ce que permet les lacs, c'est d'enregistrer des tremblements de terre qui ne font pas toujours de rupture. Après, on est rentré dans un concept un peu plus technique, c'est que comme on avait certains tremblements de terre qui avaient été enregistrés par des instruments, on avait la magnitude, on avait aussi la fonction d'onde et l'intensité qui était liée. Et donc on savait déterminer jusqu'où la distance de la région, enfin la région qui avait été affectée par ces tremblements de terre instrumentaux. Et le lac avait été affecté par un de ces tremblements de terre, et donc on a pu déterminer, sur base des tremblements de terre instrumentaux, ce qu'on retrouvait dans le lac représentait une certaine intensité, une certaine magnitude. Et d'autres tremblements de terre qui avaient été aussi dans la région du lac, mais qui n'avaient pas affecté le lac, nous permettaient de dire que l'intensité et la magnitude n'étaient pas suffisantes que pour pouvoir provoquer le déclenchement d'une avalanche sous-marine. Et donc c'est un peu un essai-erreur et on arrive à progressivement réduire les candidats autour de ça. Il y a eu deux articles. L'article qui a été qui est sorti récemment dans Science Advances qui a une certaine beauté ou une certaine esthétique mathématique, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on permettait de lier le comportement des tremblements de terre qui étaient mesurés par des instruments avec ce qu'on voyait dans des archives géologiques. Et jusqu'à présent, il y avait une certaine forme de dissonance. C'est-à-dire que ce que disaient les archives géologiques indiquait que les tremblements de terre se répartissaient dans le temps d'une manière presque périodique. C'est-à-dire que on libérait de l'énergie, un certain temps se passait, et on relibérait de l'énergie sous forme d'un tremblement de terre. Et donc on avait une certaine forme de récurrence, de périodicité. Alors que quand on regardait ce qui était donné par les tremblements de terre instrumentaux, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait un tremblement de terre, puis un groupement de tremblements de terre, et on n'arrivait pas à déterminer une certaine forme de périodicité, et donc on était proche d'un comportement aléatoire, avec des regroupements de tremblements de terre entre eux qui d'une certaine manière étaient liés et interagissaient entre eux comme des post-séismes, c'est-à-dire qu'on avait le tremblement de terre principal et l'énergie continuait à se libérer, c'est-à-dire qu'il y avait des plus petits tremblements de terre qui suivaient. Et ce qu'on a pu montrer avec cette longue carotte de 4 mètres qui provenait du lac Rara, c'est que le comportement des tremblements de terre sur 6000 ans était identique, similaire au tremblement de terre qui était mesuré par des instruments. Alors quelque part, si on regarde ça de la théorie des séismes, c'était presque attendu. On se disait, la physique qui régit les tremblements de terre doit être la même. Il ne doit pas y avoir une différence entre ce qu'on mesure depuis 1970 à maintenant et le comportement d'un tremblement de terre sur, enfin, de tremblements de terre sur 6000 ans. Mais pourquoi c'était si compliqué? C'est parce qu'on manquait d'informations. Donc quand on manquait d'informations, il faut s'imaginer un livre où des pages étaient manquantes. Et donc, un certain nombre de chercheurs ont tiré des conclusions sur ce livre dont on manquait des pages. Et on est venu remettre les feuilles manquantes dans ce livre pour avoir une compréhension plus claire de ce qui se passait. Donc ça, ça a été le dernier article qu'on a publié. Et le premier article qui a un peu mis le jalon sur les études paléosismologiques sur base des lacs, c'était un article qui était sorti dans Nature Communication et qui a été publié en 2019. Et là, on révélait pour la première fois un certain nombre de tremblements de terre qui n'avaient pas été décrits. Et on montrait que la technique d'utiliser des carottes sédimentaires dans les lacs fonctionnait. Donc, on est parti de... Avec les lacs, on peut reconstituer des tremblements de terre passés. On montre qu'on a un certain nombre de tremblements de terre qui n'avaient pas été décrits, on les révèle. Cette deuxième étude, qui est sortie récemment, on fait des statistiques. Donc on regarde le comportement global des tremblements de terre dans le temps. Ce qu'on fait maintenant, et ce qu'on va s'affairer à faire pour les 5 prochaines années, c'est de comprendre comment les tremblements de terre se répartissent dans l'espace. Donc là, on a travaillé sur le temps. Maintenant, on va travailler sur l'espace en regardant, sur base des enregistrements qui sont présents au Rara, à Foxundo, à Dumba, au Tidicho et au lac Fewa, où on retrouve certains tremblements de terre. Pourquoi, dans certains cas, on ne retrouve pas ces tremblements de terre-là? On pourra arriver à comprendre et à évaluer probablement une magnitude pour chacun de ces tremblements de terre. Et ensuite, avec toutes ces informations, on voudrait les réinjecter dans des modèles informatiques, mathématiques, qui nous permettront de comprendre de manière un peu plus claire comment les tremblements de terre agissent entre eux, comment les failles fonctionne dans cette zone, et donc avoir une vision un peu plus claire de la mécanique des tremblements de terre. C'est assez complexe, mais en même temps assez simple aussi. Les outils sont complexes, mais si on en revient à des choses assez fondamentales, au final c'est comment de l'énergie se libère et qu'est-ce qu'elle impacte, qu'est-ce qu'elle n'impacte pas. On serait tenté de se dire, ah, si un séisme se provoque, il y a une forte chance qu'un autre séisme se provoque. Ça, c'est sûr. La question, c'est toujours dans combien de temps? Et jusqu'à présent, on n'a pas assez d'informations. On est toujours assez démunis que pour pouvoir arriver à prédire le tremblement de terre. Donc, on n'est pas dans ce contexte-là. Par contre, on peut dire que sur une échelle de temps assez longue, sur une fenêtre de temps, que ce soit 6000 ans, ou que ça soit 3 mois, on peut voir que certains séismes provoquent d'autres séismes.
C'était Pismo Zavaz de Karim Baghili sur Radio Campus. Vous écoutez toujours Histoire de savoir, l'émission de vulgarisation scientifique. L'étude de Zakaria Gazoui montre que la région du Dolpo, à l'ouest du Népal, est une région très active sur le plan sismique, avec des séismes fréquents. Cependant, le chercheur appuie sur un point important, la survenue de petits tremblements de terre ne diminue pas le risque d'un grand séisme. Petits et grands séismes peuvent se produire à tout moment. Les observations du docteur Zakaria Gazoui contredisent les modèles de récurrence périodique ou quasi-périodique qui existaient avant. Or, cette nouvelle vision amène à une grande question, celle de la gestion du risque.
Au Japon, il y a une culture du tremblement de terre. Donc, ils savent que à tout moment, un tremblement de terre peut arriver. Et donc, toute la culture japonaise, l'architecture, quand on parle de culture, c'est l'architecture, le comportement des personnes, est régie avec l'idée du tremblement de terre. Là, quand on parle du Népal, c'était un peu plus complexe. C'est-à-dire que dans certaines régions, on a une culture du risque sismique, dans d'autres, beaucoup moins, pour différentes raisons. Alors, ce qu'on amène sur la table avec cet article, c'était de dire, un peu comme au Japon, le risque est permanent. Comme on ne peut pas prévoir, comme on n'a pas de moyens actuels, techniques, de pouvoir prévenir les personnes en disant un tremblement de terre va arriver demain ou dans la prochaine heure, le risque doit être considéré comme permanent. Il n'y a pas de zone, il n'y a pas de période qui sont moins dangereuses ou plus dangereuses. Une tendance qui pourrait s'inscrire, c'est de se dire on a eu un tremblement de terre, si on est dans le concept d'un risque périodique, eh bien on se dit c'était un très gros tremblement de terre, le prochain arrivera peut-être dans 25 ans, parce que le dernier gros tremblement de terre qu'on a enregistré, c'était il y a 25 ans. Donc ça, c'est dangereux. Là où c'est dangereux, c'est dans la manière comme on construit le bâti. Les tremblements de terre en soi ne sont pas dangereux, mais c'est la destruction des maisons qui tombent sur les personnes, des infrastructures qui créent le risque et qui font que des personnes décèdent ou sont blessées. Donc ça rentre un peu dans un débat plus global au Népal sur l'architecture, sur la gestion des infrastructures, de se dire on ne peut pas prévoir quand est le grand tremblement de terre comme le Big One en Californie, celui qui serait de magnitude 8 ou 9. Par contre, on peut vous dire qu'à magnitude 6, à magnitude 7 peut arriver. Et ça arrive. L'année passée, il y a eu encore des tremblements de terre assez importants. Il y a eu un certain nombre de morts. Donc il y a aussi cette question qui peut aussi être vue pas si loin de chez nous, en Belgique, sur la question, par exemple, des crues. C'est que souvent, on a tendance, et on en discute avec des amis qui ont des fois peut-être un peu moins la conscience du risque, mais si on discute, par exemple, des coulées de boue en Wallonie, ça devient de plus en plus récurrent. La question du nombre de morts qui était liée aux dernières crues était assez exceptionnelle. Mais quand on pose la question des crues, systématiquement, il y en avait de plus en plus. On a tendance un peu à l'oublier parce que ça affecte moins de personnes, parce que c'est peut-être moins important, mais au final, il y a quand même des personnes qui sont affectées par ça. Les tremblements de terre à l'ouest du Népal, c'est la même chose. Il y a eu des tremblements de terre qui ont affecté un certain nombre de personnes. Il n'y a pas toujours eu des décès, il n'y a pas toujours eu des maisons qui ont été détruites, mais ça révèle quand même une tendance générale, c'est que la zone est à risque. Au même moment où on a sorti notre article, l'Inde a révisé ses cartes de risque sismique et est partie dans une approche conservative, d'une certaine manière, de dire on revoit le risque de manière à étendre les zones qui étaient jusqu'alors considérées comme peu dangereuses à dangereuses, pour être sûr que si jamais il y a un tremblement de terre, même moyen, on essaye de réviser les codes d'urbanisme pour éviter que des personnes ne décèdent. Si on prend par exemple la question du risque de tremblement de terre en conjonction avec le changement climatique, on appelle et on rentre dans une, pas une nouvelle notion, mais dans un nouveau champ qui sont les risques en cascade, c'est-à-dire on peut le prendre de deux côtés. Vous avez une pente, la mousson est particulièrement intense, elle érode de plus en plus cette pente, donc il y a une susceptibilité à ce que la pente parte et fasse un glissement de terrain très important. Mais elle reste encore stable. Quelques heures après, un tremblement de terre passe, donc ça rentre en conjonction. C'est-à-dire que un élément affecte un autre et rend un risque qui était considéré comme plus ou moins contraint à quelque chose de catastrophique si on a un autre agent comme un tremblement de terre. Donc là, on rentre dans des dimensions qui sont de plus en plus complexes à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les tremblements de terre vont rentrer en conjugaison avec des risques climatiques et créer des catastrophes qui sont probablement plus importantes. Il y a toujours moyen de pouvoir contraindre. C'est-à-dire qu'il y a des zones où, dans les codes d'aménagement, il est préférable de ne pas s'installer près de pentes qui seraient à risque de pouvoir partir. Dans le contexte de l'Himalaya, c'est compliqué parce que, et dans le contexte du Népal, c'est des zones qui sont extrêmement peuplées en montagne. Et la réalité du risque et la résilience par rapport au risque est différente. Donc ça ne veut pas dire que les personnes acceptent le risque au quotidien, mais elles en ont conscience aussi au travers de l'histoire du Népal, au travers des guerres. Et donc rentrer sur la question du tremblement de terre, c'est rentrer dans un débat national plus large, de dire où on situe le risque parmi d'autres risques, parmi le risque géopolitique, par rapport au risque climatique, par rapport au risque de maladie. Et donc c'est là que l'État doit aider les personnes pour pouvoir justement leur permettre d'arriver à vivre dans une certaine forme de résilience et de sérénité, sachant aussi que le Népal est assez dépourvu de moyens économiques et que ça rentre aussi dans des considérations géopolitiques assez importantes sur la coupure des fonds liés au développement. Donc, on touche à des questions qui sont assez sensibles. C'est-à-dire, aller voir une personne et lui dire « Votre maison ne respecte pas les normes en termes de risque sismique, alors qu'elle n'est pas à même de pouvoir fournir la nourriture nécessaire à leurs enfants. » C'est là que l'État intervient, ou que, pas toujours l'État, que d'autres structures peuvent intervenir pour pouvoir amener à répondre à ces questions. Si on se base, par exemple, sur le cas du Cachemire, ce qui est très intéressant au niveau de l'architecture, parce que là, on en revient à des pratiques humaines, c'est qu'on s'est rendu compte, alors on s'est pas rendu compte récemment, mais il y a beaucoup d'études qui ont travaillé sur l'architecture vernaculaire, et sur tout l'arc himalayen, on retrouve des constructions qui sont à même de résister aux tremblements de terre. C'est-à-dire qu'on retrouve de la maçonnerie de pierres sèches qui sont ensuite entrelacées de bois mètre par mètre, et donc on a ces entrelacements de bois et de pierres. Pourquoi c'est extrêmement intéressant? Parce que le danger principal des tremblements de terre, c'est le cisaillement, c'est-à-dire que c'est le glissement entre les pierres entre elles. Donc au niveau d'une maison, ce mouvement de gauche à droite, de droite à gauche, lacère la maison. Par contre, si on a ces plaques de bois entre, ça permet aux pierres de glisser entre elles, de ne pas avoir justement cette friction, et ça permet d'éviter que la maison s'effondre. Ça explique aussi pourquoi, et là on en revient sur la question des carottes, pourquoi un certain nombre de tremblements de terre n'ont pas été décrits. Parce que les maisons résistaient. Si on a une maison en béton, c'est quelque chose d'extrêmement rigide, donc elle finit par se casser. Par contre, si on a ce système qui permet aux pierres de glisser entre elles et d'éviter que la maison s'effondre, on a quelque chose qui résiste. Et il suffira juste après de pouvoir remettre ces pierres manquantes dans la maison. Une des problématiques en Himalaya, c'est qu'avec le tourisme et l'augmentation de la population, on coupe de plus en plus de bois. Donc on a de moins en moins de bois disponible pour pouvoir recréer cette architecture qui nécessite du bois. Et donc il y a toutes des considérations techniques de travailler avec des architectes pour se dire bon, comment on remplace et comment on arrive à permettre à des personnes qui voudraient reconstruire de manière traditionnelle, mais substituer du bois. C'est des réflexions qui sont en cours. Et aussi, il y a des considérations esthétiques. Pourquoi certaines personnes décident de construire de manière vernaculaire, alors que d'autres se disent, ça ne correspond pas aux critères d'esthétique actuelle ou de représentation qu'on voudrait pour la maison. Donc, le débat est bien plus large, est bien plus vaste.
Les séismes ne s'arrêtent pas à l'Himalaya. En Inde, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et même en Europe, la Terre tremble. Mais ces régions du monde varient fortement. Alors, peut-on comparer les séismes népalais à ceux des autres régions du monde et en tirer une vision plus universelle ?
On a comparé le contexte du lac Rara avec le contexte en Nouvelle-Zélande, donc avec des lacs où on avait des carottes sédimentaires qui provenaient de Nouvelle-Zélande, d'Indonésie, du Chili et de la région de Cascadia qui est aux États-Unis. Et on s'est rendu compte que le comportement était assez similaire. C'est-à-dire que globalement, les tremblements de terre étaient aléatoires, ils avaient un comportement aléatoire, ils se répartissaient dans le temps de manière aléatoire, mais qu'au sein de cette répartition assez aléatoire, on avait des regroupements d'événements, des regroupements de tremblements de terre qui étaient liés entre eux. C'est-à-dire que vous avez un tremblement de terre qui se passe au niveau d'une faille, et au moment où il y a la libération d'énergie, cette onde va interagir avec une autre faille et va provoquer un autre tremblement de terre. Donc ça, c'était des événements qui sont corrélés entre eux. Donc on montrait qu'il y avait des événements, des paquets d'événements qui étaient corrélés entre eux, et que globalement, c'était aléatoire. Donc ça, ça a donné un peu une certaine forme de beauté au résultat, c'est que ce qu'on retrouvait pour les tremblements de terre passés, liés aux archives géologiques, correspondait de manière très très proche à ce qu'on voyait avec les instrumentaux. Donc il y avait une similitude entre les instrumentaux et les archives géologiques, pas qu'au niveau du Népal, mais à l'échelle d'autres contextes tectoniques répartis dans le monde. Il y a deux manières d'approcher. On est proche d'un concept d'universalité, mais il faut y faire attention parce qu'on base nos observations sur des informations qui restent encore crépusculaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore assez d'informations que pour vraiment se permettre de pouvoir dire on a une loi d'échelle, on a une loi universelle, tous les comportements se comportent de la même manière. Mais on a pu montrer que dans certains cas, et dans ces contextes, la similitude était très proche. Il y a probablement une idée qui est encore assez présente, et c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Est-ce que vous arriverez à prédire les séismes ? Ça, c'est une grosse problématique. Et de manière générale, mais ça, on peut l'apercevoir en psychologie, c'est le rapport au risque. Donc, c'est un contexte qui n'est pas évident. C'est-à-dire qu'une fois que le séisme est passé, assez rapidement, après que le traumatisme soit passé, si on n'est pas directement concerné, il y a un oubli qui est assez rapide. Et ça, on le voit sur toutes les catastrophes qui se passent. Donc c'est justement tout l'intérêt, je pense, de travailler avec plusieurs disciplines. Et que chacune alimente l'autre. C'est-à-dire le voir juste... ça, c'était un des gros problèmes. Le voir juste d'un point de vue paléosismologique... d'une certaine manière, on crée un biais parce que on ne regarde uniquement que le problème sous un certain angle. Et la seule chose qui est souhaitable, c'est de justement pouvoir impliquer des architectes, pouvoir impliquer des sociologues, des anthropologues, des politiciens, afin de pouvoir poser la question dans toute sa complexité et dans la globalité pour répondre aux questions que vous posez justement sur l'impact, sur la décision à prendre à l'avenir. Et aussi permettre aux personnes de se dire on peut vivre dans certaines zones malgré le fait qu'il y ait des tremblements de terre. La question, c'est que d'autres personnes poursuivront ce qu'on fait. Si on en était au stade à se dire on a résolu la question du gap sismique, on a résolu la question de la distribution dans le temps des tremblements de terre à l'ouest Népal, alors on pourra en rester là. On met le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire qu'on se dit ah ben on a de plus en plus d'informations, donc on va avancer sur d'autres questions. Ce qui est aussi formidable avec ces carottes, c'est qu'on a des informations sur les tremblements de terre, mais on a aussi des informations sur le climat. Et donc on travaille en parallèle. C'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre. Et donc sur la question des 5 prochaines années, voire des 10 prochaines années, avec les étudiants qui travaillent avec nous, les futurs doctorants, les futurs post-doctorants, les futurs chercheurs. C'est le début d'une certaine aventure. Et on travaille maintenant sur le Népal. Après, on va s'étendre vers l'Inde, puis le Cachemire. C'est le début d'une longue histoire.
C'était Histoire de savoir sur Radio Campus. Cette édition vous a été présentée par Odile Frépia et Lucas Germain, avec la participation du docteur Zachary Gazoui. Merci à lui et merci à vous de nous avoir écoutés. Sari ga ma 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 ga ma